Chapitre 85. J'ai sous les yeux une vieille traduction d'Appius. Elle date de 1560. Elle est de Monseigneur Claude de Seyssel, premièrement évêque de Marseille et depuis archevêque de Turin, comme on écrivait alors. Je lis les premières lignes du chapitre 16. Elles sont ainsi conçues. Après que César, ayant achevé les guerres civiles, fut retourné à Rome, il se montra moult fier et épouvantable à tout le peuple, plus que tous ceux qui avaient été devant lui, pour la raison de quoi on lui fit tous les honneurs humains et divins. Quel enseignement il y a dans ces quatre lignes, et comme la pensée de l'auteur est clairement exprimée dans son naïf langage. Seulement, était-ce bien véritablement par crainte que tous ces honneurs étaient accordés à César ? Par le Sénat, oui, par le peuple, non. César, relevant Corinthe, Capoue et Carthage, ces villes éplorées lui étaient apparues en songe. César, en voyant des colonies au nord-est, à l'est et au sud, César décentralisait Rome et la répandait sur l'univers en même temps qu'il appelait l'univers dans Rome. Car ce n'était pas simplement à Rome, ce n'était pas simplement à l'Italie que pensait ce génie immense qui, tout étonné de voir le monde en paix, ne savait plus que faire de son génie. Tandis qu'il projetait au milieu du champ de Mars un temple, au pied de la roche tarpéienne un amphithéâtre, sur le mont Palatin une bibliothèque destinée à renfermer tous les trésors de la science humaine, et qu'il nommait son bibliothécaire Terentius Varron, l'homme le plus savant de l'époque, il voulait, reprenant ses travaux tant de fois entrepris et tant de fois abandonnés, couper l'isthme de Corinthe et l'isthme de Suez pour joindre non seulement les deux mers de Grèce, mais encore la Méditerranée et l'océan des Indes. Agnénus était chargé de cette entreprise. En outre, ce même Agnénus devait creuser un canal qui irait de Rome au promontoire de Circé et qui, conduisant le Tibre dans la mer de Terracine, ouvrirait au commerce une route plus prompte et plus commode jusqu'à la capitale de l'Empire. Puis, ce canal creusé, il nettoyait la rade d'Ostie, élevé sur ses bords de fortes digues, faisait disparaître les rochers qui la rendaient dangereuse, y construisait un port et des arsenaux, desséchait les marais pontins, en changeait les terres détrempées et incultes en campagnes fertiles qui fourniraient du blé à Rome, laquelle cesserait dès lors d'être tributaire de la Sicile et de l'Égypte. Pour peupler les nouvelles colonies, 80 000 citoyens furent transportés au-delà de la mer, et pour que la ville ne se dépeuplât point, César défendit par une loi qu'aucun citoyen au-dessus de 20 ans ou au-dessous de 40 fût absent de l'Italie pendant 3 ans de suite, à moins que son devoir et son serment ne l'y retinssent. Puis il accorda le droit de bourgeoisie à ceux qui professaient la médecine à Rome ou y enseignaient les arts libéraux. Il voulait fixer dans la ville les intelligences supérieures et y attirer celles des villes étrangères. Il établit contre les crimes des peines plus sévères que celles qui avaient été portées jusque-là. Les riches pouvaient impunément commettre des meurtres, ils en étaient quittes pour s'exiler sans rien perdre de leurs biens. Mais César n'entendit point que désormais les choses se passassent ainsi. Il voulut que, en cas de parricide, le patrimoine entier fût confisqué, et la moitié pour tout autre crime. Il chassa du Sénat les concussionnaires, lui qui avait fait suer tant de millions à la Gaule et à l'Espagne. Il déclara nul le mariage d'un ancien prêteur qui avait épousé une femme le surlendemain du jour où elle s'était séparée de son mari, lui qu'on appelait le mari de toutes les femmes, et vice-versa. Il mit des impôts sur les marchandises étrangères, défendit l'usage des litières, de la pourpre et des perles, lui qui avait donné à Servilli une perle de 1 100 000 francs. Enfin, chose curieuse, inouïe, incroyable, il s'occupait des moindres détails, à ce point qu'il avait des espions dans les marchés et que ces espions saisissaient les denrées dont la vente était interdite et les apportaient chez lui. Il faisait même suivre les acheteurs par des gardes déguisés qui allait enlever les viandes jusque dans les maisons. Il avait encore un autre projet, le même qui faisait rêver Bonaparte, quand Bonaparte disait « Notre Occident n'est qu'une taupinière. Dans l'Orient seul, on peut travailler en grand. » Il voulait pénétrer dans cette mystérieuse Asie où s'était enfoncé Alexandre et aux portes de laquelle était tombé Crassus. Il voulait dompter les Parthes, traverser l'Hyrcanie le long de la mer Caspienne et du mont Caucase, se jeter dans la Scythie, soumettre tous les pays voisins de la Germanie et la Germanie même. Enfin, revenir en Italie par les Gaules, après avoir arrondi l'Empire romain, qui eut enfermé ainsi dans son enceinte la Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire, et qui, atteignant à l'occident l'Atlantique, au sud le Grand Désert, à l'est l'océan Indien, au nord la Baltique, rattachant à son centre toute nation policée, à sa circonférence toute nation barbare, méritait alors véritablement le titre d'empire universel. Puis, rassemblant toutes les lois romaines dans un seul code, il les imposait, en même temps que la langue latine, à toutes les nations. L'homme qui substituait de pareils projets à la politique irrésolue de Pompée, au stoïcisme légal et étroit de Caton, à la faconde stérile de Cicéron, pouvait certes bien être nommé père de la patrie, consul pour 10 ans, dictateur à vie. Au reste, Plutarque rend parfaitement compte de cette fièvre de César. César, dit-il, se sentait né pour les grandes entreprises, et si loin que ses nombreux exploits lui fissent désirer la jouissance paisible du fruit de ses travaux, ils lui inspirèrent, au contraire, de plus vastes projets qui amoindrissaient, pour ainsi dire, à ses yeux, la gloire qu'il avait acquise. Ils allumaient en lui l'amour d'une gloire plus grande encore. Cette passion n'était qu'une sorte de jalousie contre lui-même, telle qu'il aurait pu en avoir à l'égard d'un étranger, qu'une rivalité enfin de surpasser ses exploits précédents par ceux qu'il projetait dans l'avenir. Mais ce qui, à nos yeux, à nous, fait surtout de César un homme supérieur, c'est que, suivant la marche contraire à celle qu'avaient suivi ses devanciers Sylla et Marius, il comprit qu'on n'étouffe pas les partis dans le sang et qu'en laissant vivre ceux qui avaient survécu de républicains à la défaite de Pompée, ils tuaient la République. Maintenant, que serait-il advenu du monde si César, vivant 10 ans de plus, avait eu le temps d'exécuter tous ses projets? Mais on entrait dans l'an 44 avant Jésus-Christ. César ne devait pas voir le 16 mars de cette année. Depuis son retour d'Espagne, nous l'avons dit, il y avait dans cette âme clémente et miséricordieuse une profonde tristesse. L'assassinat de Pompée, dont il avait relevé les statues, le suicide de Caton, qu'il essayait de railler après sa mort, semblaient deux ennemis acharnés à sa poursuite. Il avait eu deux torts en acceptant le triomphe. D'abord de triompher après une guerre civile. Puis, tort plus grave encore peut-être, de faire triompher ses lieutenants à sa place. La Bruyère a dit « Quand on veut changer une république, c'est moins les choses que le temps que l'on considère. Vous pouvez aujourd'hui ôter à cette ville ses franchises, ses lois, ses privilèges. Demain, ne songez pas même à réformer ses enseignes. » Par malheur, César n'avait pas lu la Bruyère. Il y a des dehors de liberté auxquels les peuples tiennent plus souvent qu'à la liberté même. Auguste le savait, lui qui, toute sa vie, refusa le titre de roi. Cromwell le savait aussi, lui qui ne voulut jamais être que protecteur. Après cela, ambitionna-t-il réellement le titre de roi? Lui qui avait toutes les couronnes, ambitionna-t-il sérieusement cette demi-aune de ruban qu'on appelle la bandelette royale? Nous n'en croyons rien. À notre avis, ce n'est point César qui voulut être roi. Ce sont ses amis qui voulurent qu'il le fût. À moins cependant que le titre ne tentât César, précisément parce qu'il était odieux et plein de dangers. Quoi qu'il en soit, vers le commencement de l'année 708 de Rome, le bruit se répandit que César voulait être roi.